France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Son pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Esse.
Un jour dans le monde, c'est un jour à l'exposition universelle d'Osaka au Japon ce soir.
Welcome to Expo 2025, Osaka, Kansai, Japan. Here is the People's Living Lab. 世界中の人々が...
C'est une IA qui nous souhaite la bienvenue à l'exposition universelle donc d'Osaka. Bonsoir Régis Arnaud.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous vivez au Japon depuis plus de 30 ans. Vous êtes le correspondant du Figaro ou de Challenge. Vous chroniquez aussi dans des médias japonais. Vous avez écrit aux éditions du Rocher le tour du Japon en presque 80 histoires, des petits morceaux de Japon dans lesquels vous nous invitez à picorer. Et ce sera un petit peu notre porte, notre pavillon à nous. C'est comme ça en tout cas qu'on va entrer à l'intérieur de l'exposition universelle. Régis Arnaud, quand on lit des choses sur les premiers jours de cette expo universelle, on sent un pays qui prend son temps pour s'enthousiasmer, qui cherche même le sens d'une exposition universelle. Et en vous lisant, j'ai eu le sentiment, pardonnez-moi, j'ai eu le sentiment d'un pays triste, comme s'il avait conscience au fond, et c'est peut-être aussi ce que dit cette expo, qu'on ne peut pas à la fois être et avoir été.
Effectivement, il y a un adjectif qui revient souvent à propos du Japon, c'est pas tant la tristesse que la mélancolie, c'est-à-dire un pays qui a une grandeur encore assez récente et fraîche et qui se demande un peu quoi en faire et qui recule un peu d'une position où il était jusqu'à la fin des années 80. Et l'expo elle-même, où je suis allé deux fois, donne un peu ce sentiment. D'abord, le concept d'expo est un concept un peu étrange et un peu peut-être
presque
obsolète,
désuet, en fait,
quand
ouais.
On ne parle que de la Tour Eiffel. Mm-hmm. Presque désuet, on se demande un peu, on n'a plus besoin d'expo. Mm-hmm. Et ensuite, c'est une expo, si vous voulez, le nom, c'est immersif, les pavillons sont immersifs, où vous avez une expérience, mais vous n'avez pas une espèce de souffle qui vous porte vers l'avenir.
Alors, on va y aller à cette expo dans un petit instant. Régis Arnaud, il faut rappeler qu'Osaka avait déjà accueilli l'Expo Universelle en 70, et à ce moment-là, c'était un Japon conquérant qui allait devenir, moins de 10 ans plus tard, une vraie puissance économique. Dans les années 80, tout ce qui était technologique était japonais, on rêvait tous de notre Walkman Sony. Aujourd'hui, la question qui vient, c'est au fond, à quel avenir aspirent les Japonais? Et est-ce que cette expo-là répond à cette question?
Alors effectivement, l'expo de 70, c'était le grand retour du Japon après les JO de 64. Et un peu comme les JO de Tokyo il y a deux ans, cette expo signe un autre Japon. Justement, quel avenir? C'est pas quel avenir, c'est plutôt comment préserver et que préserver, je pense. Comment garder son présent et comment l'aménager pour continuer ce qu'on a atteint, mais sans vraiment souffle vers un avenir qui est meilleur.
Souffle vers un avenir, et vous le disiez, nostalgie peut-être de ce qu'on a été. Vous avez un exemple dans votre livre, il y a un chapitre par exemple sur Toshiba, dont vous dites effectivement que cette entreprise a incarné le Japon, comme Hitachi, Sony incarnaient le Japon. Et aujourd'hui, ces entreprises-là n'incarnent plus l'excellence japonaise. Toshiba, c'est ce que vous dites, meurt de tergiverser plutôt que de se restructurer. Et vous dites même, on ne l'aide pas aujourd'hui, on ne l'aide aujourd'hui que par la nostalgie d'un Japon enfui. Un Japon enfui, dites-vous. Et quand on est enfui, ça veut dire qu'on a du mal à revenir, en fait.
Oui, c'est un pays qui reste excellent industriellement dans beaucoup de domaines, mais plutôt dans des composants ou des choses que le consommateur final ne voit pas. Mais on n'achète plus d'ordinateurs Toshiba, on n'y a plus de produits Toshiba, ni de produits Panasonic, et peu de produits Sony dans nos vies. Donc, ils gardent un savoir-faire. Il y a un mot qui vraiment résume le Japon, pour moi, qui est dans l'intro du livre, c'est la répétition.
Oui.
C'est-à-dire cette manière de faire des process industriels, de reproduire à une échelle infinie des objets très sophistiqués. Toshiba était une de ces machines fabuleuses à produire tout ce qui existait. Ils avaient un catalogue, je sais plus, de 50 000 références. Et aujourd'hui, il a encore des zones d'excellence, évidemment. Il est très bon dans le... Quelqu'un me disait, il y a quelques années, quand on monte dans un ascenseur Toshiba, on n'a pas peur. Quand on monte dans un ascenseur chinois, on a un peu peur. Ça, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas? Est-ce qu'il y a encore cette prime japonaise sur les objets? Oui, mais elle a tendance à s'effacer.
Vous décrivez, Régis Arnaud, dans votre livre, et c'est d'ailleurs l'histoire qui ouvre vos récits, les réfugiés des cybercafés, ceux qui dorment faute de logement même s'ils travaillent. Vous décrivez combien le Japon a eu un mal fou à surmonter Fukushima aujourd'hui encore. Vous parlez du nucléaire comme cette ligne de fracture, au fond, dans un Japon, dites-vous, étouffé par le consensus. Vous décrivez le virage raté du textile en décrivant une ville qui s'appelle Nishiwaki. Vous décrivez la condition des femmes qui sont très souvent laissées pour compte. Et l'effet que ça m'a fait... mais vous me direz si j'en ai une mauvaise lecture, c'est celle d'un Japon qui aurait raté une marche parce qu'il n'a pas su s'adapter à un monde globalisé, comme si ce monde globalisé, en fait, lui avait fait peur et qu'il n'avait pas voulu pousser cette porte-là.
Alors, le livre n'est pas totalement sombre, mais c'est vrai qu'il
y a aussi des histoires très sympas.
Annulez pas votre voyage tout de suite. Il y a un paradoxe du Japon qui est en fait qu'au moment où le Japon est le plus universel, c'est-à-dire aujourd'hui ou il y a quelques années, c'est-à-dire les films sont... Enfin, La Guerre des Étoiles est inspirée du Japon, la cuisine japonaise est partout, les mangas sont partout, c'est un pays qui a à la fois une culture populaire. C'est peut-être, à ma connaissance, c'est le seul pays qui a à la fois une culture populaire et une culture sophistiquée qui a un appel mondial du sushi au manga. Mm-hmm. Et en même temps, c'est un pays qui se replie et qui refuse, qui fait un refus d'obstacle, en fait, devant la mondialisation et qui refuse d'entrer dans le concert général. Les chiffres des passeports sont tombés il y a quelques semaines. Il y a que 17% des Japonais qui ont un passeport. Mm-hmm. Ça veut dire que 83 ne sortent jamais. Et donc, ça donne un Japon un peu comme un aquarium qui est un peu en vase clos, dans lequel on rentre et dans lequel on est ravi de rentrer comme étranger, comme corps étranger, mais qui refuse, mais c'est peut-être aussi un peu son intérêt ou ce qui en fait un objet curieux, qui refuse d'entrer de plein pied dans la mondialisation, d'apprendre l'anglais et de suivre des tendances qui partout ailleurs sont devenues des évidences.
C'est marrant que vous parliez de vase clos parce que le meilleur exemple, c'est presque une métaphore de ce pays, c'est ce que vous racontez sur la princesse puis impératrice Masako, qui a été une jeune femme qui était brillante, qui était polyglotte, qui était voyageuse, qui a fait de très hautes études, qui a eu des jobs très importants, puis qui est devenue neurasthénique, en fait, tant la vie au palais et la fonction qu'elle occupe est presque une punition, précisément dans ce vase clos-là. Est-ce que vous diriez, vous aussi, que c'est peut-être un peu une métaphore de ce pays que le destin de cette femme, finalement ?
Ben un peu, parce que en fait, j'ai écrit dans mon article, s'il reste des esclaves au Japon, c'est la famille impériale. C'est-à-dire que c'est un autre paradoxe. C'est-à-dire la personne, la famille la plus en vue, dont on devrait envier l'existence. Toutes les jeunes filles rêvent d'être princesses, mais sauf au Japon. C'est-à-dire que c'est une vie de servitude et de privation et de dévotion, de dévouement à son peuple, alors qu'il a sans doute sa gloire et qui est enviable par certains égards, mais qui est d'une dureté. L'impératrice, c'est vraiment celle à qui on ne passe rien. C'est-à-dire qu'il y a c'est à la fois il y a un culte de la fonction, mais en même temps on regarde la personne au microscope, surtout l'impératrice, parce qu'elle doit avoir des enfants et puis prolonger la lignée impériale. Et donc c'est encore une fois un sort dont personne n'a envie.
Alors allons-y au Japon, Régis Arnaud, allons-y à Osaka, à l'exposition universelle. Julien Baldacchino a visité justement le pavillon japonais, et vous allez l'entendre, hein, étonnant pavillon japonais. On écoute le reportage de Julien, on se retrouve juste après.
Avec 80% de Japonais attendus sur l'ensemble de l'expo, ici tous les pays présents s'adressent avant tout au public japonais. Tous, y compris le Japon lui-même, avec un paradoxe très frappant. Partout dans l'exposition, on voit des démonstrations techniques, robotiques en tout genre, comme ces cellules artificielles sur le pavillon de la ville d'Osaka. Partout, sauf dans le pavillon du Japon, la technologie y est présente, mais cachée, l'usage, lui, est mis en avant, et c'est le recyclage. Toshiki Omori est le responsable de la communication du pavillon japonais.
Le pavillon japonais est décomposé en trois zones. L'usine, la ferme et l'atelier. D'abord, on transforme les ordures en eau, puis l'eau en matière, et enfin cette matière en objet. On parle d'un cycle, puisqu'une fois qu'on a transformé les ordures en nouvelles matières, elles finissent par redevenir des ordures à leur tour.
Des techniques qui pour lui font écho à une forme de tradition japonaise.
Au Japon, on ne gâche pas les matériaux, on utilise nos objets pendant longtemps. Par exemple, nous avons nos cruches à eau, les kioke. Si elles s'abîment, on ne les change pas. On remplace la partie qui ne va plus, mais on continue à les utiliser.
En revanche, quand on demande quel est le message adressé spécifiquement au public japonais, silence radio, peut-être parce que l'expo a connu une forte impopularité sur place, un peu à la manière des Jeux Olympiques de Paris l'an dernier. Et comme les JO, elle a pourtant fait le plein dès le premier jour.
Voilà, on espère que ça continuera évidemment à faire le plein, il y en a pour 6 mois, hein, d'une exposition universelle. Un mot, Régis Arnaud, d'abord au passage, il faudrait décrire un peu Osaka, parce que c'est une ville qui a la réputation d'être un peu Marseille, comparée à Paris, qui est plus tape à l'œil, qui est plus brillante, qui est évidemment plus commerçante, qui est moins corsetée peut-être que peut l'être Tokyo. Il y a quelque chose de particulier, non, dans cette ville d'Osaka ?
Ouais, la meilleure définition, c'est Paul Theroux qui dit « Tokyo est une machine ». C'est-à-dire, c'est une, on dirait une espèce d'horloge avec des aiguilles dans laquelle vous vous baladez, mais il n'y a pas de chaleur, on vous tape pas sur l'épaule, etc. Osaka, c'est vraiment différent. Les gens sont beaucoup plus entiers, beaucoup plus francs. Vous voyez à leur visage ce qu'ils pensent et ils n'essayent pas de dissimuler leurs sentiments. Et c'est une ville très commerçante qui est reliée plus à la Chine peut-être que Tokyo et qui, effectivement, a beaucoup de charme.
Qu'est-ce que ça dit du Japon, ce que ce pavillon a choisi de montrer? Est-ce que ça dit, est-ce qu'on regarde le verre à moitié vide, c'est-à-dire un Japon qui a du mal à innover aujourd'hui par rapport à certains de ses compétiteurs, et je pense aux Chinois notamment, ou est-ce qu'on y voit le verre à moitié plein, c'est-à-dire on parle de recyclage, on parle de conscience écologique, ce qui est aussi évidemment le monde qu'on a devant nous?
Alors c'est un pays, alors j'ai pas visité le pavillon japonais, mais si on regarde l'expo en elle-même, c'est drôle que vous parliez de verre à moitié vide, parce que hier un ingénieur me disait dans le verre à moitié vide, ce n'est pas du vide, c'est de l'air, et avec de l'air on peut faire de l'énergie, donc on peut plus dire à moitié vide, à moitié plein, on peut dire à moitié plein et avec de l'air, ou tout plein. C'est ce qu'il m'a dit, maintenant on dit tout plein.
C'est très japonais.
C'est très japonais. Non, mais c'est un Japon encore très, très expérimental qui veut chercher. C'est quand même un pays d'ingénieurs et de gens qui font des recherches dans tous les sens. Donc, c'est une espèce de grande quincaillerie d'invention, d'innovation, etc. Le problème, c'est évidemment leur passage à une échelle importante et vers la conquête du grand public. Ça devient un pays qui tente des choses, qui a plein de brevets dans tous les sens, dans le textile, dans l'électronique, etc. Mais encore une fois, qui n'arrive plus jusqu'au consommateur final. Ça, c'est très frappant. Donc ça devient un grand laboratoire d'expérimentation.
Après, il y a quelques phrases qui m'ont frappé dans votre livre, Régis Arnaud. Je pense au chapitre, par exemple, que vous faites au sujet de la délinquance juvénile et tout ce que vous dites au sujet de la justice. Il y a cette phrase, c'est celle d'un sociologue. Et moi, ça m'a un peu glacé quand même. Il dit « J'aimerais que nous passions d'une société de surveillance mutuelle à une société de confiance mutuelle. Nous sommes en sûreté, mais sommes-nous heureux ?» Alors ça, c'est une sacrée phrase. Les Japonais sont-ils heureux ?
Il avait même une autre expression, je ne sais plus si je la mets dans l'article, mais il appelle ça la société de l'otage, c'est-à-dire que tout le monde est l'otage de tout le monde. Alors vous êtes dans, enfin moi dans le quartier là d'où je vous parle, vous avez enfin les voisins, du voisin à l'employé, à votre collègue, à votre famille, etc. Vous êtes un peu un nœud dans un réseau, vous êtes dans un tel réseau de gens, de relations, etc. que certes tout le monde se regarde et se considère et s'évalue et ça a des vertus, c'est-à-dire vous faites toujours partie d'une collectivité ou qu'elle soit, vous êtes techniquement jamais seul, si j'ose dire, mais en même temps vous envolez pas, vous êtes pas. Je me rappelle souvent d'une phrase, c'est drôle, mais il y a une phrase dans un film français où à un moment Jean Rochefort dit à Catherine Deneuve, vous avez le visage d'une femme libre, et des fois je pense à ces phrases, je suis dans le métro à Tokyo et je cherche les visages libres. Et bon, enfin, tout le monde a ses servitudes et tout le monde joue plus ou moins avec la liberté, mais il y a tellement d'obligations dans cette société et qui en plus rendent la vie de l'étranger agréable, puisque en fait, moi, je ne suis pas astreint à toutes ces servitudes. J'arrive là comme un corps étranger. Mais c'est donc une société. Est-ce qu'ils sont heureux ou pas? Je pense qu'ils ont je peux pas arriver à une conclusion comme ça, mais je pense que en tout cas, il y a une certaine sérénité au Japon. Il y a une tranquillité, il y a un certain apaisement qui a une grande valeur. Le bonheur, c'est autre chose.
Alors vous, on a l'impression que vous êtes un Français heureux au Japon. Il y a quand même deux choses aussi dans vos conclusions. D'abord, il y a l'idée, et c'est vraiment intéressant, que cette espèce de conservatisme japonais, on finit par le retrouver partout. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. C'est ce que vous dites d'ailleurs. Le monde va peut-être finir par ressembler de plus en plus au Japon et pas l'inverse. Et puis quand même, vous dites ça à un moment. Vous dites, comment résumer le Japon pour un Français? Peut-être par la formule suivante. L'endroit du Japon est un rêve et son envers est un cauchemar.
Oui, c'est une formule un peu forte, mais en fait, pour décrire le Japon, moi je dis souvent, ça fait rire beaucoup de monde quand j'arrive en France, le Japon c'est un peu Zemmourland, c'est-à-dire c'est un pays assez réactionnaire où, en gros, le rêve d'une société un peu sous Georges Pompidou est préservé, c'est-à-dire vous avez, je sais pas, la peine de mort existe, la société est plutôt rétive au changement que l'inverse sur le plan des mœurs. C'est une société qui a évidemment beaucoup d'intérêts, d'avantages, et c'est une société qu'on a longtemps pensé rétrograde ou en retard, mais comme vous venez de le dire, peut-être que de plus en plus de gens, plus en plus de pays vont ressembler au Japon. Moi, quand j'avais 20 ans, on pensait que tous les pays ressembleraient en gros à la Californie, c'est-à-dire un grand melting pot, et on serait tous, tout le monde cohabiterait sous le même soleil. Et là, on est en train de vivre peut-être une démondialisation ou une sorte de retour vers des frontières qui en fait montrent que le Japon a peut-être toujours été un modèle. Depuis 100 ans.
En tout cas, c'est fascinant d'y plonger grâce à vos histoires. Le tour du Japon en presque 80 histoires aux éditions du Rocher. Puis l'expo universelle, elle dure encore 6 mois. Donc pour ceux qui passeraient leurs vacances du côté de votre pays, merci beaucoup Régis Arnaud. Merci de votre passage chez nous.
Merci à vous.
La suite, ce soir, c'est le reportage d'Un jour dans le monde. Vous allez assister à une réunion à Bruxelles entre organisations russes luttant pour la démocratie en Russie. Des paroles qui sont rares et des gens courageux. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, il y a Lise Roseveille sous les radars.
On parlera d'un trafic de fourmis géantes au Kenya, des insectes très prisés, vendus sur le marché noir en Europe ou en Asie, jusqu'à 200 euros la fourmi.
Alexandre Jublin, Le Monde à 18h50. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Fabienne. Ce soir, un sujet qui enflamme les petits et les grands, la mobilité militaire et la logistique.
Le cinéma en VO avec vous Corinne Pellissier. Salut Corinne.
Bonjour, on évoque ici le destin tragique d'Oksana Tchatchko, figure féminine au cœur d'un biopic ce mercredi.
Allez, à tout de suite, le tour de la planète commence à peine, il passe par l'île de Wight en Angleterre avec Wet Leg qui revient dans la playlist d'Inter après 2 Grammy Awards et 2 Brit Awards aussi. Catch These Fists, c'est le titre. Alors que 4 journalistes russes ont été condamnés hier à 5 ans et demi de prison, vous l'avez entendu ce matin sur France Inter, le reportage ce soir est à Bruxelles, dans un lieu secret, avec des gens justement qui ne veulent pas tous révéler leur identité, parce que dans ce lieu s'est tenu la semaine dernière un congrès dédié aux initiatives russes anti-Poutine. Plus de 90 organisations dispersées aujourd'hui dans le monde entier, dont Russie Liberté en France, tous rassemblés pour parler Russie et démocratie, et le reste c'est Virginie Pironon qui raconte.
Des groupes de discussion sur le rôle de la société civile russe dans la guerre, des ateliers pour expliquer comment soutenir les déserteurs, venir en aide aux prisonniers ukrainiens, récolter des fonds ou lutter contre la propagande du régime. 300 personnes environ ont participé à ces 2 journées de réflexion soutenues par l'Union européenne. Des militants réfugiés pour la plupart en Europe et aux États-Unis en raison de la répression, mais aussi des Russes qui continuent à se battre de l'intérieur, comme cette opposante de premier plan qui souhaite rester anonyme.
Les gens qui sont très actifs sur ces questions en Russie ne sont pas nombreux. Et bien sûr, ceux qui ont quitté le pays veulent avoir des informations de première main sur ce qui se passe. Pas juste lire un message sur Telegram ou regarder des vidéos, mais échanger avec quelqu'un en chair et en os, avec ceux qui travaillent sur le terrain. C'est pour ça que ma présence ici est importante. Et pour moi aussi c'est important, car c'est un vrai plein d'énergie que je suis en train de faire. Et je vais l'utiliser pour poursuivre le travail en Russie.
Lunettes noires sur le nez, nous l'appellerons Andrei. Le jeune homme de 25 ans, qui organise en Russie des débats politiques, ne cache pas sa nervosité à l'idée de donner une interview. Rien que pour ça, les autorités russes pourraient l'affubler du statut d'agent de l'étranger.
C'est comme marcher sur un champ de mine. Tu ne sais jamais quand quelque chose va exploser sous tes pieds. Ce type de répression est fait pour répandre la peur. Certains comparent leur activité à l'intérieur du pays à la prise en charge d'une personne gravement malade. C'est désespérant, c'est difficile, mais c'est nécessaire. Pour beaucoup, résister à la guerre, c'est apparenté à simplement continuer le travail.
Mais d'autres n'ont pas eu le choix. Lyolia Nordic, réfugiée aujourd'hui en Autriche, où elle lutte contre la propagande du Kremlin, a quitté la Russie peu après le début de la guerre à grande échelle en Ukraine. La cofondatrice du mouvement Résistance Féministe Anti-Guerre, le réseau clandestin le plus important aujourd'hui en Russie, est poursuivie par le régime russe pour terrorisme. Si les stratégies peuvent différer et qu'il n'y a pas une seule opposition russe, dit-elle, les objectifs restent les mêmes.
Nous voulons l'effondrement du régime de Poutine. Nous voulons que Poutine finisse en prison, à La Haye ou ailleurs. Nous voulons que la guerre s'arrête, et d'une façon juste pour l'Ukraine, pas à l'avantage de Poutine, Trump ou Elon Musk. Nous partageons tous ici ces objectifs.
Des échanges sous l'œil admiratif de Mariana Kadzarova, rapporteuse spéciale de l'ONU pour les droits de l'homme en Russie.
Ils sont très courageux. J'ai peur pour eux tous les jours parce qu'on ne peut pas se rendre physiquement en Russie pour les sauver. Beaucoup d'entre eux continuent à travailler en Russie de façon confidentielle. Ils essaient d'aider les ONG ukrainiennes qui cherchent des informations pour déterminer les responsabilités dans le futur. Où sont les enfants? Où sont les détenus ukrainiens en Russie? Donc cette plateforme, ces rencontres, ça aide. Parce que tous ces activistes, ces défenseurs des droits de l'homme, ne se sentent plus seuls.
Il faut, poursuit Mariana Kadzarova, que les pays de l'Union européenne et toute la communauté internationale aident ces jeunes activistes russes, souvent nés après la chute de l'URSS, en facilitant par exemple l'accès à des visas pour que ceux qui en ont besoin puissent échapper à la répression.
Virginie Pironon, dans ce lieu tenu secret qui parle donc Russie et démocratie. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Lise Rosveil. Alors, rien que le bruit, c'est effrayant. Nous sommes d'abord au Kenya, où un trafic d'un nouveau genre se développe.
Le trafic de fourmis moissonneuses géantes africaines. Un insecte protégé dans le pays, mais très recherché pour sa couleur, mélange de rouge et de noir, et pour sa taille, jusqu'à 25 mm. Sa valeur atteint près de 200 euros sur le marché noir. Quatre hommes viennent d'être arrêtés en possession de ces fameuses fourmis. Deux Belges, un Vietnamien et un Kenyan. Les insectes étaient dissimulés dans des tubes à essai et des seringues remplies de coton. Les fourmis peuvent y survivre plusieurs semaine. Les enquêteurs en ont découvert des centaines. Les trafiquants les transportent ainsi en toute discrétion et quittent le Kenya, direction l'Europe ou l'Asie. Ces fourmis alimentent alors les marchés d'animaux exotiques. Des collectionneurs se les arrachent. Certains les gardent comme des animaux de compagnie. Cette saisie record prouve que ce trafic international est en pleine expansion.
Direction le Royaume-Uni où le lifting brésilien des fesses est dans le collimateur des autorités.
Vous avez peut-être déjà vu des publicités sur les réseaux sociaux pour cette technique de chirurgie esthétique. L'idée est de ponctionner du gras du ventre ou des cuisses et de l'injecter dans les fesses pour avoir un derrière bien rebondi. Un modèle du corps féminin inspiré de stars comme Kim Kardashian ou Nicki Minaj. Eh bien, les autorités viennent d'interdire les publicités de ce lifting brésilien des fesses à 6 entreprises anglaises. Ces publicités promettent des résultats sûrs, éprouvés et je cite, d'un naturel exceptionnel. Sauf que ces pratiques ne sont pas sans risque, avec des possibles infections tension ou phlébite. Certaines clientes en sont déjà mortes. L'autorité de régulation de la publicité au Royaume-Uni juge qu'il ne faut pas banaliser ces pratiques ni exploiter les complexes des femmes sur leur corps.
Allez, nous partons pour finir à la frontière américano-canadienne en pleine tension diplomatique. Une petite bibliothèque se retrouve dans une situation ubuesque.
La Haskell Free Library and Opera House. Elle est installée à cheval sur les deux pays, une partie dans le Vermont et l'autre au Québec. À l'intérieur, entre les étagères, il y a même une marque noire au sol pour délimiter la frontière. Depuis plus d'un siècle, les habitués voyagent donc des États-Unis au Canada en passant des rayons polars aux livres pour enfants. Et ils peuvent tous entrer par la même porte principale du côté américain sans aucun contrôle des identités. Sauf que les autorités américaines veulent durcir les règles. À partir de cet automne, un poste frontalier sera installé devant l'entrée de la bibliothèque. Contrôle des identités pour tous les Canadiens. Washington assure que des passeurs et des trafiquants de drogue se servent de cet endroit. C'est complètement faux, répondent les habitués. Des Canadiens et des Américains, souvent amis, qui se retrouvent à la bibliothèque. C'est aussi un point de rencontre pour des familles séparées à cause de problèmes de visa. Un lieu de paix, d'unité, insistent les dirigeants. La bibliothèque assure qu'elle utilisera donc une petite porte du côté canadien qui était jusque-là condamnée.
Une histoire incroyable, Lise Rosevein, merci beaucoup. Vous partez, tiens, par la grande porte en passant par le Brésil avec Bebel Gilberto et l'un des titres fondateurs de la bossa nova brésilienne, un standard repris par Bebel Gilberto en 2021.
Podem me pedir e também podem me rogar e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar que eu não vou ir, melhor não pedir, eu não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar e até sorrir e até falar e podem mesmo imaginar que melhor lhe parecer. Podem espalhar que estou cansada de viver, o que é uma pena para quem me conheceu. Podem me rogar e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar que eu não vou ir, melhor não pedir, eu não vou ir, não quero ir. E também podem me brigar e até sorrir e até falar e podem mesmo imaginar o que melhor lhe parecer. Podem espalhar que estou cansada de viver, o que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. Podem me pedir e também podem me rogar, e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar que eu não vou ir, melhor não pedir e não vou ir, não quero ir. E também podem me intrigar e até sorrir e até falar.
Bebel Gilberto sur France Inter et d'un jour dans le monde. Le monde à 18h50, c'est Alexandre Jublin.
How dare you? The world has changed.
Fabienne Saint-Esse. Le 18-20.
Et aujourd'hui, Alexandre, vous vous intéressez aux petits détails qui font les grands problèmes des armées françaises.
Oui Fabienne, alors je confesse que j'ai pas forcément choisi la facilité en choisissant de parler de soutien et de logistique militaire à une heure de grande écoute, mais c'est pourtant parfaitement central et passionnant, vous allez voir. Supposons que dans un scénario fictif, mais qu'il est plus temps que ça, la Russie se décide à envahir le territoire de l'un de nos alliés à l'est de l'Europe, par exemple dans les pays baltes, et qu'on décide donc d'envoyer en urgence un escadron de chars pour les aider à arrêter la déferlante russe. Comment est-ce qu'on les transporterait sur place, à votre avis ?
Bah, si on est pressé, j'imagine qu'on le ferait par avion, non ?
Eh ben, mauvaise pioche, Fabienne, parce qu'on n'a aucun moyen aérien en France, ni en Europe, pour transporter des chars. On a bien quelques gros avions, les Airbus A400M, mais qui ne sont pas assez gros pour faire entrer des chars de combat. Dans les seuls avions qui sont capables de faire ça sont, tenez-vous bien, soit russo-ukrainiens, les Antonov qu'on louait pour envoyer des troupes au Sahel il y a quelques années, mais qui sont un brin plus difficile à trouver de nos jours, ou bien américains, et pour des raisons évidentes, il serait malin de ne pas trop compter dessus dans les années qui viennent. Vous me direz, on peut prendre un peu plus de temps et passer par le train ou par la route, mais c'est à peine moins compliqué parce que c'est à chaque fois une aventure de faire un convoi militaire à travers l'Europe sur des axes civils qui ne sont plus pensés pour ça. Vous vous souvenez peut-être en 2022, au moment de l'invasion de l'Ukraine, qu'on avait voulu déployer un groupement blindé en Roumanie et qu'on s'était heurté aux normes de sécurité des ponts allemands dont la tolérance réglementaire était inférieure au poids par essieu des camions porte-chars français. Bon, du coup, on avait envoyé plutôt en urgence les chasseurs alpins, c'était plus simple, mais ça ne fait pas tout à fait le même job, n'est-ce pas? Et encore aujourd'hui, un convoi qui part de France pour aller jusqu'en Roumanie, mais plus de 60 jours, je vous laisse imaginer l'utilité en cas d'urgence.
Donc tout ça recouvre, selon vous, un problème plus profond de mentalité?
Oui, c'est au fond révélateur de deux travers qui sont français mais très largement partagés en Europe. Tout d'abord, le fait de se reposer beaucoup trop sur les capacités du grand allié américain, en particulier pour tout ce qui concerne les enablers, c'est-à-dire tout ce qui permet l'action des forces armées, le transport stratégique, mais aussi le renseignement ou la coordination des forces. Ça pouvait se comprendre à une époque, mais avec l'évolution actuelle des États-Unis, ça devient un pari très dangereux. Et le second, qui le recoupe mais qui est encore plus profond, c'est une focalisation sur le gros matériel emblématique, les chars, les avions, les navires, au détriment de toutes les fonctions support et de la logistique, des budgets dans lesquels il était beaucoup plus facile de couper durant les années de vache maigre, parce que c'est moins visible et moins gênant que d'annuler ou de diminuer des commandes de rafales ou de frégates, même si ça s'est aussi fait.
Or, les deux, dites-vous, vont parfaitement de pair.
Oui, parce que pour prendre un exemple emblématique, on n'a certes pas assez d'avions de chasse ni aujourd'hui ni demain, on était censé en avoir plus de 200 en 2030, on verra si c'est tenu, mais on n'est déjà pas capable de faire voler tout ce que l'on a, parce qu'il y a bien moins d'équipements de guerre en stock que d'avions, et qu'il faut donc déplacer les radars, par exemple, d'un avion à l'autre quand ils partent en mission. Et là, je parle d'avions, mais c'est valable aussi, encore plus même, pour des frégates ou des blindés dont on récupère les équipements quand ils rentrent de mission pour les mettre sur d'autres unités. Et avant de songer à augmenter les formats des armées, même s'il faudrait aussi sans doute le faire, il faudrait donc commencer par faire en sorte que ce qu'on a puisse servir et avoir des équipements qu'on nomme « bons de guerre ». En d'autres termes, mettre des moyens sur des aspects moins voyants mais tout aussi centraux, et je vais conclure cette chronique avec une citation de Napoléon, à moins qu'elle ne soit d'Eisenhower ou du général Bradley, en vérité personne ne sait qui l'a dit en premier. Les amateurs parlent de tactique alors que les professionnels parlent de logistique.
Bon, on essaiera de la retenir. Merci beaucoup Alexandre Jublin en pension dans le 18-20, auteur du podcast Le Collimateur, spécialisé justement dans la stratégie et dans le militaire. Le mercredi, c'est le cinéma en VO et c'est Corinne Pellissier.
Moteur. France Inter.
Un jour dans le monde.
Сексуальний об'єкт перетворюється на об'єкт, який протестує.
Наша місія – бунт! Наш Бог – женщина! Ми –
фемі! Corinne, leurs manifestations coup de poing ont changé à jamais la lutte féministe. Gros plan aujourd'hui sur le mouvement des fémènes au cœur cette semaine d'un biopic au cinéma signé de la réalisatrice Charlène Favier. Ce film s'appelle Oksana, du nom d'une des figures fondatrices du mouvement, Oksana Tchatchko, qui avait déjà inspiré par le passé plusieurs réalisateurs.
Alors, il y a déjà eu, il y a 10 ans, cet excellent documentaire « Je suis fémène » d'Alain Margot, qui avait su saisir à l'époque toute la complexité d'Oksana Tchatchko, qui voulait épouser Dieu quand elle avait 12 ans, avant de fonder en 2008, avec deux de ses copines, ce qui allait devenir le mouvement des fémènes, contre la corruption de la classe politique, l'oppression religieuse, pour la liberté des femmes, mouvement dont le monde entier aujourd'hui connaît les actions coup de poing en Ukraine, en Russie ou à Paris, le mois dernier encore, pour la manifestation du droit des femmes le 8 mars, au son d'Hail Trump, Hail Poutine, pour dénoncer seins nus une épidémie fasciste. Le film Oksana de Charlène Favier raconte les origines du mouvement, avant qu'Oksana Tchatchko prenne ses distances avec les fémènes, puis qu'elle ne se donne la mort en 2018 en France, où elle avait demandé l'asile politique. Un destin tragique, abordé de manière linéaire mais onirique, qui fait la part belle à l'engagement de la jeune femme et à l'artiste qu'elle était, radicale, sans concession, et dont la soif de liberté résonne évidemment beaucoup avec l'actualité pour la comédienne Albina Korch, qui joue Oksana dans le film, très fière d'avoir pu participer à sa manière à l'effort de résistance face à la Russie.
Je suis réfugiée politique, artiste, activiste, extrémiste.
Révolution.
Femmes want better future, better than their parents. And they made it. They go to Ukraine, after they go to Russia.
Les femmes militaient pour un avenir meilleur que celui de leurs parents. Et pour moi, elles ont réussi. Le message est parti d'Ukraine et a essaimé partout, jusqu'en Russie et même plus loin. Il y a 2 ans, on m'a demandé où en était le mouvement en Ukraine aujourd'hui. Il est évident pour nous que l'esprit des femmes est en chacune de nous aujourd'hui. Beaucoup de femmes sont engagées dans l'armée, sur le front, ou participent à l'effort de guerre. J'ai compris, grâce à elles, l'importance de ma liberté, l'importance de ma vie. Oksana m'a appris à davantage prendre soin de moi et à mieux me considérer. La période, vous savez, est importante pour nous. Pas un jour ne se passe sans que les sirènes ne retentissent. Le jour où je suis arrivée à Paris, la ville de Kiev a été attaquée par des missiles. Ma mère, bien sûr, m'a envoyé des messages rassurants pour me dire que ma famille était à l'abri et en sécurité. Mais c'est dur. Votre corps est à Paris, mais votre esprit est en Ukraine. C'est perturbant. Mais nous sommes très reconnaissants de l'aide française. C'est important de savoir qu'on n'est pas tout seul.
Alors, avec le recul de l'actualité, Corinne, et avec son casting ukrainien, le film, lancé avant le début de la guerre, prend aujourd'hui évidemment une dimension encore plus forte.
En tout cas, ce n'est pas tout à fait ce qu'avait prévu sur le papier Charlène Favier, de faire passer des entretiens par Zoom, de déménager le tournage en Hongrie après avoir écrit son scénario pendant le Covid. Le mouvement féminin, d'ailleurs, assez ému, elle l'avoue, n'avait pas d'emblée retenu son attention. Ce n'est qu'après son premier film, Slalom, qui racontait une histoire d'emprise dans le milieu du ski, et parce qu'elle cherchait une autre figure féminine forte à exploiter, qu'elle est tombée par hasard un jour sur Oksana. Immédiatement bluffée par sa soif de liberté, sa force, son incandescence, la première, bien avant la guerre, à avoir osé tenir tête à Vladimir Poutine et dont le portrait a forcément, avec le temps, pris une autre dimension. Tout comme le tournage galvanisé par la détermination d'Albina Korse et des autres comédiennes ukrainiennes, très inspirantes pour l'équipe.
Elles sont arrivées avec à la fois une force, une fragilité, une nécessité aussi de faire ce film. Ça faisait 1 an et demi, je pense, que la guerre avait éclaté dans leur pays. Et c'est vrai que sur le plateau, la force de ces filles, de ces actrices qui sont elles-mêmes en fait des combattantes, qui sont elles-mêmes des résistantes, parce qu'elles le disent très bien, elles ont choisi de rester en Ukraine. C'était très très puissant et très fort. Oksana, en fait, elle nous a tous prévenus. Dans le film, elle le dit, mais elle l'a dit aussi dans des interviews, elle l'a écrit, elle l'a crié, elle l'a scandé, elle a fait de la prison pour nous dire « attention ». Attention, on est en train de bafouer nos libertés. Elle, elle vivait vraiment cette autocratie vraiment de plein cœur, mais elle venait aussi alerter les Européens parce qu'elle a milité dans plein de pays européens. Et donc, c'est assez hallucinant quand même aujourd'hui de voir à quel point son message résonne encore, à quel point il est d'actualité. C'est vrai que c'est incroyable, c'est incroyable.
Oksana, signée Charlène Favier, donc au cinéma ce mercredi. Corinne Pellissier, merci beaucoup, à la semaine prochaine.